Nous prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps de culte. Nous te bénissons pour ton appel à venir t'adorer, proclamer ton nom et entendre tes merveilles. Seigneur, nous te prions que par ton esprit en nous, tu puisses agir de la manière dont tu le souhaites. Que Seigneur, nous soyons attentifs à cette parole, que nous soyons attentifs à ton action à l'intérieur de nos vies et que nous puissions, jour après jour, nous laisser transformer à l'image de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je le disais la semaine dernière, toute l'Écriture pointe vers le Christ et vers son œuvre. Toute la Bible est à lire et à comprendre en rapport avec cette œuvre de Christ. Et la semaine dernière, nous avons pointé ce que l'événement de l'Ascension manifeste, mais aussi les bienfaits qui en découlent. J'avais insisté particulièrement sur un de ces bienfaits. Il y en a tellement que on ne peut pas tout faire en une prédication. Et ce bienfait-là, sur lequel j'avais insisté, c'était le ministère d'intercession et d'avocat du Seigneur Jésus-Christ, à la droite de Dieu le Père. Un autre de ces bienfaits, c'est que Jésus, une fois monté au ciel, a envoyé son Esprit Saint. Et là, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Comme Jésus l'avait annoncé à ses disciples, il était avantageux qu'il s'en aille. Notamment parce que maintenant, la présence de Jésus sur terre est démultipliée par l'envoi du Saint-Esprit dans le cœur des croyants et sur son Église. Alors je vous invite à entendre plusieurs lectures ce matin. Des petits versets choisis, je n'ai pas pris tous les passages parce que ça aurait été long. On va commencer avec l'Évangile de Jean au chapitre 14. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que moi je vis et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi et moi en vous. Et je saute au verset 25. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi, je vous ai dit. La deuxième lecture se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1. C'est le verset qui précède le texte de la semaine dernière, que je n'avais pas lu exprès pour le garder pour aujourd'hui. Donc, acte 1, verset 8, Jésus est en train d'annoncer à ses disciples ce qui va se passer juste avant d'être enlevé. Et il dit, « Mais vous, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » La troisième lecture se trouve dans l'Épître aux Romains, quelques versets du chapitre 8. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et la dernière lecture, on retourne dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Le risque dans lequel on tombe parfois quand on parle de la Pentecôte, c'est de ne se fixer que sur le récit que je viens de lire à l'instant, celui du livre des Actes au chapitre 2. C'est pour ça que je l'ai mis à la fin. Comme si ce seul chapitre suffisait à parler du Saint-Esprit. Comme si tout était dit avec ça. Comme si la Pentecôte était un événement précis, unique, qu'il nous fallait chercher à reproduire dans sa manifestation et dans sa puissance, de la façon dont il est décrit en acte 2. Or, il n'en est rien. Le Saint-Esprit était présent avant le récit des actes, bien que d'une manière différente. Et son action est beaucoup plus large que la manifestation particulière, certes extraordinaire, de ce jour à Jérusalem, quand des langues de feu se sont posées sur les disciples. L'envoi du Saint-Esprit a été annoncé par Christ. Il s'est produit à la suite de sa mort, de sa résurrection et même de son ascension. L'envoi de l'Esprit-Saint, c'est en fait la suite annoncée et programmée de l'œuvre par laquelle Dieu nous sauve en Jésus-Christ. Il en est en quelque sorte l'achèvement, même si nous attendons encore le retour du Christ en gloire. Ça, c'est vraiment l'achèvement. Alors si on regarde dans l'Écriture un petit peu qu'est-ce qui nous est dit du Saint-Esprit, on le voit apparaître très vite puisque dès le récit de la Genèse, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est présent dès la création. Il nous est présenté planant à la surface des eaux. Il en est fait mention ensuite à diverses occasions. Par exemple, je cite un verset de la deuxième épître de Pierre, mais qui nous parle des temps anciens. « C'est par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Un verset qui nous dit quelle est l'inspiration divine des Écritures. Hein. Et notamment, les prophètes ont parlé de la part de Dieu par l'action du Saint-Esprit. C'est également le Saint-Esprit qui a, dans l'Ancien Testament, saisi des hommes et des femmes dans diverses occasions. Mais ce qu'on peut observer, c'est que cette action de l'Esprit dans l'Ancien Testament est plutôt ponctuelle et limitée de manière générale. En général, elle touche une personne précisément pour une action, une mission particulière. Alors ce qui change après l'ascension du Seigneur, c'est justement que son action s'étend de manière beaucoup plus globale, notamment parce que le ministère du Saint-Esprit est d'être présence du Christ en nous, de nous rappeler ses paroles, ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean, de nous rappeler son œuvre, de nous conduire à lui et de nous transformer à son image. Ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Hein. Je le redis, le ministère du Saint-Esprit est d'être présence du Christ en nous, de nous rappeler ses paroles et son œuvre de manière incessante, parce qu'on a une fâcheuse tendance à oublier, de nous conduire à lui en nous transformant à son image. C'est, on pourrait dire aussi, la réalisation de la prophétie de Joël qui dit « Ce jour-là, mon esprit sera répandu sur vos fils et vos filles qui prophétiseront, etc. » Il est important de noter aussi que le Saint-Esprit n'ajoute rien à ce que Jésus a enseigné. Il ne dit pas des choses nouvelles qui sortiraient de on ne sait pas trop où. Il n'invente rien, il ne distribue pas de nouvelles révélations qui seraient en décalage complet avec ce que l'Écriture dit, qui ajouteraient, qui annuleraient ou qui relativiseraient même ce que Jésus a fait et enseigné. L'Esprit confirme tout. Rien de moins et rien de plus. Confirme tout ce qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui, je le rappelle, est le centre vers lequel tout pointe. Le Saint-Esprit est d'abord une personne. Alors en général, si on a fait du catéchisme, on le sait. Mais c'est pas mal de se le redire parce qu'on se le représente rarement comme une personne. Quand on y pense, hein, on a du mal. Peut-être... Je me rends compte avec les catéchumènes que c'est la personne qu'ils ont le plus de mal à considérer comme une personne. Et c'est normal. Mais c'est quand même une des trois personnes de la Trinité. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas d'abord une puissance. Il est d'abord une personne. Une personne puissante. Il n'est pas d'abord une puissance dont on pourrait user à notre guise, selon qu'on serait plus ou moins spirituel. Il n'est pas quantifiable, selon des manifestations surnaturel qui nous ferait dire l'esprit est là, dans telle église ou dans tel chrétien, mais pas là, pas dans tel autre. L'esprit est avant tout Dieu en nous. On lit par exemple dans la première épître aux Corinthiens, nul ne peut dire que Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'esprit de Dieu. Voilà un bon moyen de savoir si l'esprit est là. Peut-on dire Jésus est le Seigneur ? Oui, ben alléluia, nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est une bonne nouvelle, c'est une fête. Et la raison pour laquelle l'Esprit est la présence de Dieu en nous est assez simple, hein, elle nous est décrite dans ces textes que nous avons lus, notamment le chapitre 1 des Actes, c'est afin de faire de nous des témoins de Christ. Vous voyez, toujours Christ. Et nous assistons d'ailleurs juste après l'événement formidable de Pentecôte d'Actes 2, à la prédication de l'apôtre Pierre, dont le fruit direct est la conversion de 3000 personnes quand même. Pierre dit, entre autres, parce que sa prédication est longue, vous le lirez, hein, mais j'ai noté deux versets, il dit « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » Et on voit donc que quatre événements sont liés ici. La résurrection de Jésus, son ascension, sa réception de l'Esprit venu du Père, et son effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Et en fait, on se rend compte que ces événements-là sont inséparables. Chacun d'entre eux ne s'est produit que parce que les autres ont déjà eu lieu, ou qu'ils étaient en vue. Ensemble, la crucifixion, la résurrection, l'ascension, la réception de l'Esprit et la Pentecôte constituent un seul complexe d'événements. Ainsi, la Pentecôte en tant qu'événement spécial n'est pas plus capable de se répéter dans l'expérience chrétienne individuelle que la mort, la résurrection et l'ascension de Christ ne sont capables d'une telle répétition. Deuxième point, le Saint-Esprit demeure. Si la Pentecôte signifie quelque chose de vraiment formidable, c'est que l'Esprit est ici avec l'Église. Et il l'est non pas d'une façon ponctuelle, il est là pour rester de façon permanente, irrévocable. Grâce à la Pentecôte, les croyants peuvent être sûrs que l'Esprit ne les abandonnera pas. C'est le sens de la promesse du Christ, hein, qui dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il l'est par l'Esprit, puisque juste après, il s'en va. Mais dire cela, c'est aussi dire que la Pentecôte signifie que le Christ est là pour de bon et qu'il n'abandonnera pas les croyants. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, Jésus dit à ses disciples qu'il va vers le Père, Il leur promet qu'à ce moment-là, il demandera au Père de leur envoyer l'Esprit comme consolateur ou avocat. On se rend compte, du coup, par rapport à la semaine dernière, qu'on en a deux, finalement, d'avocats. Et il ajoute aussitôt, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. » Cette déclaration se réfère à l'envoi de l'Esprit. Ainsi, la venue de l'Esprit, c'est la venue de Jésus. C'est important d'en prendre conscience, parce que parfois, en tant que chrétien du XXIe siècle, on se plaint un peu de ne pas avoir vécu au moment où Jésus était sur terre. Alors qu'on ne se rend pas compte que notre situation est bien plus enviable, finalement. La venue de l'Esprit, c'est la venue de Jésus. Les deux sont tellement inséparables dans leur activité que la présence de l'Esprit est présence du Christ. Et Paul exprime cette réalité dans une seule phrase, qui est comme un commentaire sur la Pentecôte. Il dit que dans sa résurrection, le Christ glorifié en tant que dernier Adam est devenu l'Esprit vivifiant, c'est-à-dire l'Esprit qui donne la vie. Et il écrit un peu plus loin, « Le Seigneur, c'est l'Esprit. » Tout simplement. Pour résumer nos réflexions sur le don de l'Esprit, lorsque Pierre, en prêchant l'Évangile le jour de la Pentecôte, a déclaré que ceux qui se repentent recevront le don de l'Esprit Saint, il ne promettait pas en premier lieu, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, il ne promettait pas en premier lieu le don du parler en langue ou un autre don d'ailleurs particulier que l'Esprit donne, puisque l'Esprit donne beaucoup de choses. Il avait plutôt en vue l'Esprit comme étant la promesse du Père. Et en effet, le grand don auquel tout croyant a part, c'est Dieu lui-même. Dieu notre Père, dans le Christ, par l'Esprit Saint. Voilà ce qui nous est donné. Dieu notre Père, dans le Christ, par l'Esprit Saint. Alors oui, on peut avoir envie de dons spectaculaires. Mais est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est incroyable ? Dieu nous est donné. Le Saint-Esprit ne fait pas que demeurer, il nous équipe aussi. Il confirme et il équipe les disciples pour la moisson qui les attend. Alors, j'ai pas le temps aujourd'hui, mais on aurait pu faire le parallèle avec la fête des moissons. Parce qu'il y en a un. Il y en a vraiment un. Le Saint-Esprit équipe les disciples pour la moisson qui les attend et qui doit les conduire jusqu'aux extrémités de la terre, à commencer par Jérusalem, comme Jésus le leur a commandé après sa résurrection. Et on se rend compte dans le livre d'Actes au chapitre 2 que toutes les nations sont à Jérusalem. Donc en fait, pratiquement, ce que Dieu demande, ça s'accomplit immédiatement. Ça ne nous empêche pas qu'il faut continuer l'œuvre. Après l'accomplissement parfait et définitif de la Pâque par le sacrifice du Christ, vient tout de suite le début de la moisson, les premiers fruits, avec la conversion de ces 3000 juifs venus de toutes les régions de l'Empire romain et même de plus loin pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Attirés par l'événement extraordinaire qui vient de se produire avec l'irruption de l'Esprit-Saint sur les disciples, le don des langues qui leur est accordé, ils sont mis en présence de la puissance de Dieu. Ils entendent proclamer avec force l'accomplissement des promesses divines. Et l'Esprit qui parle par la bouche des disciples est le même qui leur ouvre le cœur à eux pour se repentir et pour croire. Et une fois de plus, la fidélité de Dieu à ses promesses est confirmée. La Pentecôte revêt désormais une dimension universelle, conforme à l'autorité universelle qui a été conférée par le Père au Fils. Matthieu 28, par exemple. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Les grands actes rédempteurs de Dieu sont proclamés par les disciples en toutes sortes de langues, leur propre langue, parfaitement comprise du coup par chacun dans ce qu'il est. La Pentecôte est donc l'événement inaugurant la prédication de l'Évangile par l'Église à Jérusalem, puis dans les régions avoisinantes de Judée et de Samarie, enfin jusqu'aux régions les plus reculées de la terre. La Pentecôte n'est pas l'événement fondateur de cette prédication. L'événement fondateur de la prédication, c'est l'œuvre parfaite de Christ accomplie sur la croix, selon le plan éternel de Dieu. Mais la Pentecôte, c'est que chacun entend dans sa langue, quoi, les merveilles de Dieu. L'Esprit Saint est également donné aux enfants de Dieu, en tout cas il donne aux enfants de Dieu la soif du retour de Jésus-Christ. Et là aussi, ça mérite qu'on s'y arrête, parce que parfois on a oublié d'avoir soif. L'Esprit est le consolateur parce qu'il rend témoignage à l'esprit des croyants que le Christ est bien vivant déjà, à la droite de Dieu. Souvenez-vous d'Étienne, hein, la semaine dernière, qui voit le Fils de Dieu à la droite du Père Céleste. En même temps, l'Esprit leur rappelle que Jésus a promis à ses disciples de revenir. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Voilà ce que déclare la confession de foi de Nicée-Constantinople. Et entre-temps, en fait, entre ces deux événements, là où l'on vit, il y a une attente normalement impatiente et active des croyants. Cette attente est exprimée avec force à la fin du dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, au chapitre 22, on lit « L'Esprit et l'Épouse, c'est-à-dire l'Église du Christ, disent « Viens !» Que celui qui entend dise « Viens !» Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. À cette attente, le Christ répond lui-même. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voilà comment termine ce passage. Alors, je fais un retour quand même sur le Saint-Esprit comme puissance. On a vu qu'il était une personne. Ça n'empêche pas la puissance. Vous recevrez une puissance, nous dit Actes au chapitre 1, le Saint-Esprit survenant sur vous. Nous pouvons examiner maintenant cette autre partie de la promesse faite par Jésus. Vous recevrez une puissance. On peut se demander de quelle puissance s'agit-il vraiment. Parce que c'est vrai que quand on regarde humainement les différentes puissances qui s'exercent dans notre monde, ça fait peut-être pas bien envie, hein. Or, nous savons, là aussi, hein, l'Écriture ne s'explique que par l'Écriture, nous savons que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il choisit les folles pour confondre les sages. Nous savons aussi que la puissance de Dieu se manifeste souvent dans la faiblesse. Nous savons encore que la croix, plus haut symbole de faiblesse et d'échec pour les humains, a été choisie par Dieu comme le lieu du déploiement de sa puissance. Et il y a effectivement une seule puissance qui libère, c'est celle de l'Esprit Saint. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Elle est la puissance exercée dans l'amour qui agit et qui transforme la vie de ceux qui croient maintenant au Fils de Dieu. Et lorsque Jésus parlait de cette puissance aux disciples, c'est vrai que ceux-ci s'attendaient à voir l'établissement d'un royaume qui dominerait le monde, qui soumettrait tous les ennemis. Et Jésus a orienté leurs pensées ailleurs, vers une autre mission. Et il les a équipés en vue de son accomplissement. Il les a rendus capables de l'accomplir. Mais c'est sûr que quand on regarde l'Église, avec un grand E, elle n'a pas l'air bien puissante, hein ? Humainement parlant, je parle. Mais c'est comme ça que Dieu fait, hein. Il choisit les choses faibles pour déployer sa puissance. Et la puissance en question, c'est avant tout l'amour, hein, que Jésus nous a commandé, l'amour qui jaillit dans notre cœur et qui doit rayonner autour de nous. Et effectivement, c'est l'Esprit du Christ qui produit cet amour dans notre vie. Nous ne sommes pas capables, même avec toute la meilleure volonté du monde, de déployer, de produire cet amour-là. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, écrit l'apôtre Paul dans une de ses lettres. Lorsque l'amour de Dieu s'empare de notre vie, il la transforme. Un tel amour est agissant, il rayonne, il se traduit en gestes, il devient consécration et service. On ne peut pas servir sans amour. On va le faire, mais avec tellement de mauvaises intentions, tellement de ressentiments, tellement d'amertume. Cet esprit produit en nous les pensées et les sentiments qui étaient en Christ. Voilà le secret, hein. Voilà comment un homme nouveau est créé, à l'image de l'homme parfait, Jésus, capable, un homme qui soit capable de vivre et d'agir comme le Christ. Alors un homme au sens d'être humain, évidemment. Hein. Tout le monde est concerné. Que le Saint-Esprit soit une personne, donc vivante et dynamique, voilà ce dont nous ne devons pas douter. Mais gardons-nous de réduire sa personne divine aux dimensions de ma personnalité humaine ou de confondre son activité avec mes états d'âme. Et là aussi, on est souvent piégé par nous-mêmes. Une grave erreur, qui est d'autant plus grave parce qu'elle ressemble à de la piété, hein, consiste à limiter l'activité de l'esprit aux seules expériences qu'éprouve le fidèle. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience. Et en vérité, une telle identification relève davantage du goût et des penchants que nous avons en tant qu'humains, hein, pour des émotions fortes, pour des choses spéciales, parfois pour un peu de mysticisme. Alors que quand on regarde et qu'on cherche à connaître de manière certaine la personne et l'œuvre de l'esprit telle que nous le révèlent les Écritures, on voit à quel point son action est bien plus large que ce qu'on peut en toucher, en goûter, en ressentir. Un peu comme les miracles, hein, on en parlait lors d'une dernière pastorale, on est parfois bien peu capable de voir tous les miracles qu'il y a autour de nous. Parce qu'on entend par miracle quelque chose de spécial, d'extraordinaire, de magique, si j'ose le mot, de surnaturel. Alors que tous les miracles de Dieu ne sont pas surnaturels. C'est pourtant des miracles. C'est l'irruption de sa présence et de son action dans nos vies. Bon, je ferme la parenthèse. Alors que devons-nous croire au juste au sujet du Saint-Esprit ? Eh bien, le récit de la première Pentecôte nous aide à saisir une grande vérité. Ce jour-là, près de 120 disciples réunis attendaient le Consolateur que le Seigneur Jésus avait promis. Pendant qu'ils attendaient et priaient, vint l'Esprit. Ils en furent remplis et aussitôt, ils se mirent à déclarer les grandes œuvres de Dieu. Pierre, le principal des apôtres, expliqua l'événement déroutant en orientant l'attention des auditeurs vers Jésus-Christ. L'Esprit unissait l'homme pécheur à son Seigneur et Sauveur. Voilà ce que fait l'Esprit. Ce même Esprit apparaît sur toutes les pages du Nouveau Testament comme une personne. Et en tant que personne, peut-être l'oublions-nous parfois, il peut être attristé. On peut lui mentir. Il peut même s'en aller. Mais il s'offre comme le don par excellence à celui qui croit. Et dans ce sens, j'ose le dire, tout chrétien croyant est un chrétien charismatique, rempli du Saint-Esprit. L'Esprit est celui du Seigneur. Jésus, lui, est le Seigneur de l'Esprit. Grâce à l'Esprit-Saint, Jésus nous applique tous les bénéfices de son œuvre de rédemption, ceux que nous avons commencé à comprendre et ceux dont nous ne savons rien. Dire que Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est confesser en même temps que le Saint-Esprit est en nous. Peu avant son départ, Jésus promettait « Je suis avec vous tous les jours ». La présence de son Esprit en nous est l'accomplissement de cette promesse. Nous ne sommes vraiment pas orphelins. Bien plus, l'Esprit nous donne l'assurance, la paix et la force de croire et d'espérer contre toute espérance. Et il est vrai que quand on ouvre les infos, on perd un petit peu l'espérance parfois. Alors voilà, il est inutile quelque part de nous interroger, encore plus de nous torturer, pour savoir si nous avons ou non l'Esprit de Dieu. Si nous confessons le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous le faisons grâce à l'Esprit qui ouvre nos cœurs et nos lèvres pour une telle proclamation. Et j'ajouterai à ceci que l'Esprit est donné à la communauté des chrétiens. Si nous sommes membres de l'Église, pas l'Église d'Alès spécialement, l'Église avec un grand E, l'Église du Christ, l'Esprit nous est donné dans la même mesure qu'à d'autres. Il s'exprimera différemment suivant les personnes, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas le posséder d'une manière individualiste pour son propre compte, encore moins pour en gagner quelque chose, comme le désirait l'un des premiers usurpateurs, hein, dont le nom est resté tristement célèbre, Simon le magicien. Si vous voulez lire l'histoire, c'est acte 8. Il voulait l'esprit pour lui-même, pour pouvoir gagner de l'argent, hein, faire des miracles. L'Esprit du Christ nous unit dans une même foi. Et ça aussi, combien c'est important. Même si nos pratiques sont différentes. L'Esprit du Christ nous unit dans une même foi et nous rattache à la communion des saints. Il nous permet de connaître un même baptême au nom de Dieu, de participer à la même coupe et de partager le même pain. Il fait de la prédication le moyen par excellence de l'appel au salut et à la conversion. Alors évidemment, c'est au prédicateur que revient la tâche d'enseigner et d'expliquer la vérité, mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui ouvre l'intelligence et qui renouvelle l'homme pour que la vérité s'empare de lui et le transforme. Et nous savons que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Alors mes amis, n'éteignons pas l'Esprit de Dieu, mais au contraire, marchons par l'Esprit. Soyons les témoins et les imitateurs de Christ, lui qui revient bientôt. Amen.